tous et à toutes, bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval. La semaine dernière, nous vous avions amené en Chine ancienne, aux origines de l'équitation dans ce pays. Nous avions pu voir que l'utilisation du cheval en tant que monture pour l'armée chinoise s'était développée sous la dynastie des Han. Nous avions évoqué également son importance dans la mythologie et l'art chinois. Nous reprenons aujourd'hui le cours de l'histoire sous le règne de la dynastie Tang, là où nous nous étions arrêtés. Avec les Tang, qui ont régné sur la Chine de l'an 618 à 906 de notre ère, le cheval prend une importance considérable. On parle même d'âge d'or du cheval. Au milieu du 7e siècle, on estime que les Tang pouvaient compter sur 700 000 chevaux répartis dans les haras impériaux. Les poneys mongols sont croisés avec des chevaux en provenance de divers lieux. Le Kusha, dans l'ancien Turkménistan chinois, aujourd'hui province autonome du Xinjiang au nord-ouest de la Chine, la célèbre ville de Samarkand, dans l'actuel Ouzbékistan, la région de Gandhara, dans le nord-ouest du Pakistan actuel. Toutes ces villes ou ces régions sont situées sur des axes commerciaux importants et notamment sur la route de la soie. On considère aujourd'hui que la route de la soie est également une route des chevaux. Ceux-ci sont échangés contre des rouleaux de la précieuse étoffe, ce qui témoigne de leur valeur aux yeux des Chinois. Enfin, il faut également ajouter à ces importations des pur sang arabes. S'ils perdent son importance au sein de l'armée chinoise, le cheval continue à jouer un rôle majeur en tant que monture des élites. Il est utilisé par la noblesse et les empereurs au cours de parades, de parties de chasse. Les dynasties régnantes ayant conquis l'empire sur le dos des chevaux, leurs descendants, gardant ce même esprit, continuent à entretenir de vastes et magnifiques haras. Nous en avons un exemple avec Li Shimin, deuxième empereur de la dynastie Tang sous le nom de Tang Taizong, qui 626-649. Donc, il a reçu une éducation militaire basée sur l'équitation et le tir à l'arc, car il appartenait à l'élite turco-chinoise des royaumes de Wei et Zhou. Cette culture turco-chinoise voue un culte au cheval. Il n'était donc pas étonnant que Li Shimin soit un grand amateur de chevaux. Il fera d'ailleurs représenter ses montures favorites dans sa tombe. C'est également sous son règne qu'est introduit le polo à Chang'an, la capitale impériale. Originaire de Perse, le polo dont nous avons parlé dans une émission précédente devient un jeu très populaire, pratiqué par l'aristocratie comme par les soldats, et ce, sur des poneys ou sur des ânes. Un siècle plus tard, sous le règne de Kuangsong, 712-756, les écuries impériales comptaient 40 000 chevaux. Les hommes chassent et paradent sur des chevaux magnifiques, les femmes montent à cheval et elles jouent au polo, comme on peut le voir grâce aux statuettes de terre cuite qui les montrent en action et qui sont visibles aujourd'hui, notamment au musée Guimet à Paris. Les meilleurs artistes étaient invités à faire le portrait des montures favorites du souverain. Tout en satisfaisant le goût personnel de l'empereur, ces peintures avaient également une signification officielle et historique. Les régions lointaines du Fergana, dont nous avons parlé la semaine dernière, et du Khotan envoyaient leurs plus beaux étalons en tribut à la capitale. Et les peintures qui en étaient faites perpétuaient cet hommage rendu par les nations étrangères au rayonnement et au prestige de la cour chinoise. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, le peintre Zhao Mengfu, qui vécut entre 1254 et 1322, écrivait à propos des peintures de l'époque Tang. Je le cite. Les peintres des Tang qui excellaient dans la peinture des chevaux étaient nombreux, mais Kaoba et Hangan sont les plus fameux. Leur principe était noble et ancien, et ils ne cherchaient pas la ressemblance formelle. S'il ne reste plus d'œuvres du premier, il subsiste quelques œuvres originales et copies anciennes du deuxième. Hangan, qui vécut au 8e siècle, entre 720 et 780, est demeuré inégalé dans l'art de peindre les chevaux. Une de ses œuvres les plus célèbres s'intitule « Chevaux et palefreniers ». C'est une feuille d'album peinte à l'encre noire et colorée sur la soie. Engan s'est imposé avec un style original en rupture avec la tradition qui offrait des représentations stylisées des chevaux. Il n'hésitera pas à dire à l'empereur, hein, et je le cite, « Je ne prends pour seul maître que les chevaux des écuries impériales », soulignant ainsi qu'il ne travaillait qu'à partir de modèles vivants. Il peindra notamment deux chevaux de l'empereur Xuanzong, au nom poétique, fleurs grises de jade et blancheur illuminant la nuit. Peint sur papier, blancheur illuminant la nuit, que l'on peut voir aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York, reflète également l'esprit du cheval céleste. Il y a en effet quelque chose du dragon dans ses grands yeux qui semblent rouler dans ses orbites, sa crinière dressée, ses naseaux dilatés. Sa musculature, par contre, est très abstraite et sa queue a disparu à cause de l'usure et du temps. 100 ans plus tard, sous la dynastie des Yuan, Zhao Mengfu, qui est considéré comme un des plus grands peintres et calligraphes de son temps, continue à peindre des chevaux dans la tradition des Hangan. Nous allons maintenant écouter un extrait de la bande originale du film taïwanais The Assassin, qui a obtenu le prix de la meilleure musique de film au Festival de Cannes en 2015. De notre émission sur l'histoire du cheval en Chine. C'est également sous le règne des Tang que le harnachement évolue. La lourde selle à harçon de bois est richement décorée. Elle est fixée à l'aide d'une sangle qui passe sous le ventre du cheval ou par un collier de chasse à l'avant, qui passe sur le poitrail, et une courbière à l'arrière, hein, fixée sous la queue du cheval. Les étriers sont fixés au pommeau et ne seraient pas réglables. Le cheval porte dans la bouche un mors brisé fixé aux rênes par un anneau. L'harnachement varie en fonction de ce que font les cavaliers. Quand ils se promènent ou paradent, les chevaux portent des plumets, des pompons, des clochettes et des plaques de métal qui viennent embellir les croupières et les colliers de chasse, les sous-gorges et les muserolles. Les chevaux de guerre, eux, portent des carapaçons et des casques sur la tête. Lors des chasses, on fixe à l'arrière de la selle un épais coussin qui protège le cheval des griffes des petites panthères et des lynx dressés à chasser le gibier. À partir du XIIe siècle, l'équitation devient plus masculine. C'est l'époque où l'on commence à bander les pieds des petites filles, ce qui rend la pratique de l'équitation pour les femmes difficile. Au XIIIe siècle, la conquête de la Chine par les Mongols peut être considéré comme un deuxième âge d'or pour le cheval. Ce peuple cavalier tire sa force de sa cavalerie légère. Les Mongols utilisent une selle avec un pommeau élevé, à l'arçon duquel sont attachés des étriers à sol large, qui leur permet de monter en suspension, debout. Le cheval va ensuite perdre progressivement de son importance, jusqu'à l'arrivée de la dynastie Qing en 1644. Les Qing sont des Mandchous qui, alliés aux Mongols, se sont imposés après avoir mis fin à des révoltes populaires et rétabli la paix. Ils vont gouverner la Chine pendant 3 siècles jusqu'en 1911. Avec eux, les femmes ont à nouveau le droit de monter à cheval. Les écuries impériales retrouvent leurs nombreux coursiers. Comme ses prédécesseurs Tang avant lui, l'empereur Qianlong, 1735-1796, fait peindre ses chevaux favoris par le peintre italien Giuseppe Castiglione. Alors Giuseppe Castiglione est un jésuite de l'ordre fondé par saint Ignace de Loyola. Ces prêtres missionnaires sont présents en Chine depuis 1582. L'un d'entre eux, Matteo Ricci, était très apprécié des mandarins, ces hauts fonctionnaires impériaux, cela grâce à ses connaissances scientifiques en particulier. Et Matteo Ricci deviendra lui-même un mandarin en 1594. Giuseppe Castiglione arrive en Chine en 1715. Il est présenté à l'empereur Kangxi par le père missionnaire Matteo Ripa et reçoit la charge de peintre de la cour qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1766. Sa formation artistique a été influencée par les peintres animaliers dans la tradition flamande. Il parfait son éducation chinoise et prend le nom de Lang Qining. Donc on trouve ses œuvres sous les deux noms Castiglione et en Chine Lang Qining. C'est sous le règne de l'empereur Qianlong, le petit-fils de Kangxi, qu'il peint ses œuvres sur le thème du cheval les plus connus. Passionné par les arts, l'empereur Qianlong multiplie les ateliers, mais en bon mandchou, c'est un cavalier dans l'âme, qui adore la chasse, ce qui lui permet de montrer aux populations de la Chine profonde qui ne connaissent pas l'équitation, ainsi qu'aux intellectuels qui méprisent les populations barbares venues des steppes à cheval, qu'il est un conquérant. Et pour bien le rappeler, il commande au peintre italien un portrait équestre grandeur nature de 2,32 m de large sur 3,22 m de haut, qui relève les qualités de portraitiste de Castiglione, que ce soit pour les hommes ou pour les chevaux. Donc comme le souverain aimait les chevaux, afin de bien se faire voir de lui, il fallait donc lui offrir des montures, et de plus, les plus beaux qui soient. Alors on connaît un certain nombre de chevaux qui appartenaient à Qianlong, car ils ont été immortalisés par Castiglione, on les appelle notamment les 10 coursiers. Alors ce sont des chevaux assez ronds, d'origine mongole, ainsi qu'un coursier alezan qui serait, selon l'empereur, un cheval du Fergana, donc ces fameux chevaux célestes. Chacun est peint sur une toile de soie de 2,70 m de long sur 2,40 m de haut, sur un fond neutre. Outre le portrait du cheval, chaque rouleau contient de nombreuses descriptions, le nom du cheval en 3 langues, mandchou, mongole et chinoise, sa taille, parfois le nom du donateur, la signature et les sceaux de l'artiste, ainsi qu'un poème de l'empereur, auquel s'ajoutent d'autres éloges poétiques. Alors, je vais vous en donner un exemple. Il s'agit du portrait d'un coursier blanc pommelé, qui s'appelle Coup de tonnerre. Il a été offert à l'empereur par le prince Kalka Kulun et Fout Sereng. Sa taille est de 4 pieds 3 pouces de haut, 7 pieds 2 pouces de long. Il y a 9 sceaux, dont 8 de l'empereur Qianlong et 1 de l'empereur Xuantong dans la partie droite de l'œuvre. En bas à gauche, la signature et les sceaux du peintre. En haut à gauche, au-dessus de la croupe du cheval, un poème tracé par l'empereur Qianlong. Le voici. Il est le compagnon de 12 coursiers dragons des écuries célestes, et c'est un cheval comme on n'en a pas vu depuis les temps anciens. Ce n'est pas seulement sa force, mais encore sa vertu qui mérite d'être célébrée. La réunion de la force et de la vertu se vit rarement. Parmi les chevaux, tu possèdes ces qualités. Longtemps, tu as été à la tête de nos chorales. Tu as parcouru dans tous les sens les territoires du nord de la muraille, en patrouillant à l'est autour du golfe de Lia. Nous nous sommes appuyés sur ta force, mais nous sommes inquiets au sujet de ta fatigue. Maintenant, tu acceptes de vivre en compagnie des chevaux ordinaires. Tu n'as pas oublié tes sentiments du passé, mais tu te lamentes sur ta vieillesse et ta faiblesse présente. Hélas, cet automne, tous les gibiers abondent dans les parcs de chasse, mais il n'y a plus que des tentes abandonnées pour t'attendre. Alors, suis ce poème, un éloge poétique qui nous dit que le cheval dragon aux jambes pommelées est originaire de l'Asie centrale, qu'il incarne la gloire et la vertu de l'empereur et qu'il soulève, je cite, « un tourbillon de couleurs des pétales de pêcher ». Castiglione peindra beaucoup de chevaux, dont un immense rouleau très célèbre, sans coursier, peint en 1728 et qui, entre autres, nous montre le cheval à tous les âges, depuis le petit poulain jusqu'au cheval âgé, aux côtes saillantes. À l'époque des Mandchous, le cheval se répand dans les campagnes où il est utilisé pour tirer des voitures. À partir de la Révolution de 1911, c'est la seule place qui lui restera. Pour ce qui est de la pratique de l'équitation en Chine aujourd'hui, par contre, c'est une autre histoire que peut-être nous évoquerons un jour. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Vous pourrez voir sur la page Facebook de l'émission les différentes œuvres dont nous avons parlé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission.